Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Adoption hier à l'Assemblée nationale du rapport de la commission ECOFIN relatif au budget 2021, estimé par le gouvernement à plus de 6 milliards de dollars. Ce budget est revu à la hausse par l'Assemblée nationale avec comme priorité le social de la population. Affaire meurtre des deux frères jumeaux brûlés vifs en juillet dernier à Kinzamvué et au Congo central. 12 personnes condamnées à mort, c'est le verdict rendu hier par le tribunal de grande instance de Tchéla. Et puis, l'invité de ce journal, Innocent Dounia, chef d'antenne de RCN Justice et Démocratie pour la ville de Lubumbashi, il nous parle du lancement hier à Lubumbashi par cette organisation de l'affichage des tarifs judiciaires. Madame, Messieurs, bonjour. L'Assemblée nationale a adopté hier le rapport de la commission ECOFIN relatif au budget 2021, moyennant des observations et recommandations estimées par le gouvernement à 6,9 milliards de dollars. Le budget 2021 est revu par l'Assemblée nationale à 7,1 milliards de dollars en priorisant les secteurs sociaux en faveur de la population. Élaboré dans un contexte international marqué par la pandémie de COVID-19, la loi de finances de l'exercice 2021 est qualifiée d'espoir, des changements et de travail par la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, au micro de Michel Kifindangoy.
Dans ce contexte particulier où la deuxième vague plus forte de la pandémie de la COVID-19 frappe à nouveau le monde et la RDC, l'adoption du budget 2021, le deuxième budget impulsé sous la houlette du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, vient nous rappeler que 2021 doit être pour les 86 millions de Congolais un signe d'espoir, un signe de changement, un signe de travail. Nous sommes là donc pour apporter des réponses aux désidérata des citoyens, leur souhait d'unité et de paix, une paix consolidée par l'héritage d'unité que nos prédécesseurs nous ont légué. Nous devons également être sensibles à leurs vœux pour une éducation meilleure de leurs enfants, leurs soucis pour les jeunes diplômés en proie au chômage ou au sous-emploi, ainsi qu'à leur volonté de nourrir et soigner mieux leurs familles.
Notez aussi que les travaux du forum parlementaire de la SADC sont lancés ce vendredi 4 décembre. Les parlementaires des pays membres de la SADC participent pendant 2 jours par visioconférence à ces travaux que préside Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale de la RDC. Pendant ce temps, dans la province de l'Équateur, les députés provinciaux sont montés au créneau hier. Ils ont dénoncé le choix opéré par le ministre de Développement Rural, celui d'affecter des attributaires jugés fictifs puisque non opérationnels sur terrain en vue d'exécuter les travaux de réhabilitation des routes de desserte agricole dans la province. Dans une déclaration politique, ils ont recommandé au ministre de tenir plutôt compte des propositions émanant de la base telles qu'envoyées par le gouverneur de l'Équateur. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'Équateur explique ici leur indignation. Il est au micro de Paul-Richard Malengela.
Ça, c'est un principe. Ce n'est pas une faveur. Les routes de desserte agricole, c'est le gouverneur qui connaît. Le gouverneur a envoyé une note de toutes les cities et toutes les ONG qui œuvrent à l'Équateur. Mais subitement, le ministre a donné les ONG qui n'existent pas. Comment ces gens-là peuvent travailler ici? Il doit respecter la note technique parce que le gouverneur connaît toutes les réalités de la province de l'Équateur. Il a envoyé pour la répartition. Et toutes ces répartitions ont une importance. Soit tel tronçon, la population souffre. Et on peut commencer d'ici et on termine là. On nous envoie quelqu'un qui reste à Bas-Congo, qui gagne le marché de l'Équateur. Est-ce qu'il connaît toutes les réalités des tronçons routiers de l'Équateur? Nous disons non. Nous appelons au bon sens au ministre national du Développement Rural de revenir sur sa décision, de prendre la note technique qui avait été envoyée par le gouvernorat provincial de l'Équateur. Au cas contraire, nous allons saisir les instances judiciaires.
Pour sa part, le ministre provincial de l'Agriculture à l'Équateur a promis de s'exprimer incessamment sur le même sujet. Sud Kivu, le bureau urbain de la société civile exige un audit financier du projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs, Picagel en sigle. Voilà pourquoi cette structure citoyenne a organisé un sit-in hier devant les bureaux de Picagel à Niawera, dans la commune d'Ibanda. Cette société civile dénonce la lenteur constatée dans l'exécution de ce projet agricole financé à hauteur de 150 millions de dollars par la Banque mondiale et dont l'échéance arrive bientôt à terme. Cynthia Bachizi.
Une trentaine de militants munis de pancartes des sifflets étaient réunis devant le bureau de Picagel. La population veut voir la matérialisation de ce projet fantôme, pouvait-on lire sur certaines pancartes arborées. Ces manifestants étaient encadrés par une dizaine de policiers. Jackson Kalimba, président du noyau urbain de la société civile.
Le projet Picagel, c'est un projet du gouvernement. Et nous, comme société, nous devons y mettre l'œil pour que ce projet ne puisse pas devenir Bukangalon Sopis. Parce que ce projet devait aider la population de ne plus dépendre des pays voisins. Tout ce que nous consommons aujourd'hui comme poisson, tout ce que nous consommons aussi comme riz, la farine que nous consommons, nous achetons ça au Rwanda. Et pourtant, tout était prévu dans ces projets. C'est par regret que nous voyons que les projets avaient une année, mais rien n'a été fait. Il y avait aussi plus de 324 km de route de cette agricole qu'on devait réhabiliter. À la date d'aujourd'hui, rien n'a été fait. À notre niveau, comme société civile, c'était un projet communautaire qui devait aider la population. Nous ne pouvons pas rester calmes sans pouvoir dénoncer cela.
Le coordonnateur du projet Picagel n'a pas voulu s'exprimer devant le micro de Radio Okapi. Rappelons que ce projet était financé à hauteur de 150 millions de dollars américains par la Banque mondiale pour booster entre autres le secteur agricole dans le sud Kivu. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Direction le Nord Kivu, en territoire de Masisi, une importante frange de la population endure des souffrances atroces dans les camps des déplacés et dans des familles d'accueil. D'après le député provincial élu de Masisi qui alerte, ce sont des milliers de personnes qui ont fui les récents affrontements entre les groupes armés, mais aussi la traque des FARDC contre ces mêmes groupes. C'est dans plusieurs localités en secteur Osoba, Nyungu et Katoy. Alexis Baunga sollicite une intervention urgente en faveur de ces populations. Sifama Gourou pour les détails.
Dans une correspondance adressée au gouverneur du Nord Kivu le 1er décembre, et dont copie a été réservée aux humanitaires et autres organisations, cet élu de Masisi qualifie de désastreuse la situation humanitaire des déplacés dans la chefferie des Bachali et des Baoundé. La plupart des populations ont fui des violents affrontements tout récemment entre l'armée régulière en opération de traque contre les forces négatives dans la région de Nyabiondo, Bukombo, Loachi, Mianja jusqu'à Pinga. Alexis Baoundé Gamalira explique.
Et voilà donc ce qui nous a motivés à adresser notre correspondance au gouverneur pour qu'une assistance en vivre et à nos vivres soit faite urgemment à cette population-là, mais aussi qu'une assistance aux élèves qui ne sont pas en train d'étudier soit faite pour que ces enfants puissent regagner urgemment le chemin de l'école, parce que beaucoup d'écoles ont fermé, beaucoup de matériels des écoles ont été pillés, et essayer de soulager la misère qu'en dire nos compatriotes qui sont dans ces cas.
Dans la même lettre, l'élu local demande au gouverneur de solliciter auprès des organismes humanitaires et agences des Nations Unies d'aller en rescousse de ces populations en attendant le rétablissement de la sécurité dans la zone. Goma Sifamaguru, Radio Okapi.
Dans le Kasaï cependant, le ACR a assisté plus de 40 000 victimes des accrochages de Bakwankenge dans le cadre d'une réponse d'urgence. À travers cette assistance, cette agence onusienne leur a remis du cash ainsi que des articles ménagers essentiels. Les bénéficiaires qui se retrouvent en territoire de Mueka au Kasaï et à Demba dans le Kasaï central indique que cette assistance va leur permettre de redémarrer leurs activités perturbées par ces accrochages. Blaise Ndongala.
Les bénéficiaires du HCR se comptent parmi les déplacés internes ainsi que les familles d'accueil des territoires de Mueka et Demba. À travers cette assistance, ils ont reçu de l'argent ainsi que des articles ménagers essentiels, parmi lesquels les nattes, les moustiquaires, les savons, les ustensiles de cuisine et autres. La chargée des relations extérieures du HCR explique que cette assistance s'inscrit dans le cadre des réponses d'urgence aux personnes ayant subi des violences en août dernier. Lubiana Gospel Servet.
Le HCR a déployé une équipe d'urgence pour venir sur place observer les besoins. On a enregistré beaucoup de déplacés internes ainsi que des familles qui accueillaient donc ces déplacés et nous avons souhaité les assister pour leurs besoins urgents et en tout ça fait à peu près 43 000 personnes. C'est des personnes qui ont dû fuir si vous voulez à cause du clash, qui ont perdu leurs abris, qui ont perdu même des membres de leur famille, qui ont subi beaucoup de violences. Donc comme ça les déplacés, c'est aussi le travail du HCR que de les protéger.
Cette assistance a permis aux uns d'entamer les activités génératrices des revenus et aux autres d'acheter des matériels aratoires et semences pour les activités champêtres. Pour rappel, en août dernier, les violences communautaires enclenchées à Bakwankenge avaient causé plusieurs dégâts matériels et pertes en vies humaines. De Kananga, Blaise Ndongala, Mayanda, Radio Okapi.
Rendons-nous en Ituri. L'association culturelle Lori, regroupant le peuple Lendu, porte plainte contre le bataillon des FARDC basé à Ezekere et Djokojo dans le secteur Tati, territoire de Djougou. Cette organisation évoque une série de violations massives des droits de l'homme perpétrées selon elle par des soldats des FARDC. L'armée, elle, estime qu'il est tôt de confirmer ces allégations. Jean-Claude Loki.
L'association culturelle Lori dit avoir répertorié plusieurs cas de bavures commises par des soldats des FARDC déployés à Ezekere et à Djokojo depuis le mois de novembre dernier. Cette organisation cite entre autres des cas de pillage de petits et gros bétail, le centre médical de la place saccagé avec des biens emportés. Les habitations de la population n'ont pas été épargnées jusqu'aux produits de champs, tout en saluant les efforts fournis par les forces loyalistes pour rétablir l'ordre dans ces entités. Célestin Tawara, président de Lori, estime que les victimes de ces actes doivent être punies.
Les commandants du secteur opérationnel a fait un très beau travail et malheureusement, ces éléments se sont livrés au pillage systématique. Et nous avons des preuves palpables.
Pour sa part, le porte-parole des FARDC en Ituri dit ne pas reconnaître ces faits. Cependant, le lieutenant Jules Ngongo sollicite des enquêtes indépendantes pour tirer au clair ces accusations pour lesquelles l'armée ne détient pas encore de preuves.
Si cela s'avérait vrai, les auteurs, nous vous assurons, vont répondre de leur action.
Justice Plus, une organisation de défense et de promotion des droits humains, salue la démarche de l'association Lori. Elle recommande à la justice de retrouver les auteurs de ces actes. L'auditeur militaire de garnison de l'Ituri confirme avoir reçu la plainte. Il ajoute que les victimes de ces forfaits seront entendues avant d'identifier les responsables. Bounia, Jean-Claude Luki, Dile, Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, au Congo central, l'affaire meurtre des deux frères jumeaux brûlés vifs le 30 juillet dernier à Kinzamvu était dans le territoire de Sekebanza, le tribunal de grande instance de Tchela, siégeant en matière répressive et en chambre foraine du 27 octobre au 6 novembre dernier, a rendu son jugement hier. Parmi les 23 suspects en détention préventive à la prison centrale de Matadi, 12 personnes écopent d'une peine de mort. D'autres détails avec Nana Plurish Mambou.
Pour Rémi Kabassé, les représentants de la famille de ses jumeaux, enfin, ses frères reposeront en paix car les personnes qui ont causé leur mort ont subi la rigueur de la loi. D'après Maître Nicolas Mbouy, avocat de la partie civile, parmi les 25 personnes citées dans ce meurtre, le tribunal a décidé de disjoindre les poursuites contre deux des prévenus. 12 prévenus ayant été reconnus coupables de ce meurtre écopent d'une peine de mort. 3 des 12 ont été reconnus aussi coupables de l'infraction de participation criminelle. 9 ont été acquittés pour non-établissement de l'infraction des meurtres. La constitution des parties civiles ont été dites recevables et fondées. Par conséquent, les condamnés doivent payer 10 000 dollars à chacun des jumeaux assassinés en dommages et intérêts. Les représentants de la famille des jumeaux s'est dit satisfaits du verdict. D'après Rémi Kabassélé, la forte sentence qu'a subie ces inciviques prouve à suffisance que cet assassinat, par rapport aux rumeurs distillées sur les réseaux sociaux, lesquelles rumeurs ont terni l'image du Congo central, n'avait rien du tribalisme ni des Godé Kenekene, procureur général du Congo central, qui a également pris part active à ces procès, affirme aussi que cet incident n'avait rien de tribal. Ce n'était qu'un malentendu et il décourage vivement la population de se faire justice. De Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu, grogne des enseignants de l'école primaire Kaembe dans la commune rurale de Kanyabayonga, territoire de Lubero. D'après la société civile locale, cette situation est due à l'arrestation mercredi du directeur de la dite école et son adjoint par le service des renseignements civils. Grâce Hamzati nous raconte.
Le directeur Muindo Kanakato Vasco et son adjoint sont accusés d'avoir fait payer 3000 francs congolais par élève pour le premier trimestre à titre des frais scolaires. Ils ont à cet effet passé toute la journée du mercredi au cachot pour être libérés dans la soirée, moyennant 36 000 francs congolais. Pour exprimer leur mécontentement, tous les enseignants de cette école matriculée et nouvelles unités ont déclenché une grève en guise de solidarité avec leurs dirigeants. D'après eux, les 3000 francs congolais payés par les parents permettent de motiver les enseignants nouvelles unités en attendant que le gouvernement les prenne complètement en charge. Daniel Sengemoja, président de la société civile de Kanyabayonga, condamne l'arrestation de ses chefs d'établissement scolaire et appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités en main. Contacté, le chef de la sous-division de l'EPST Kirumba Kanyabayonga confirme la nouvelle de l'arrestation. Cependant, Richard Mouvunga indique que l'argent perçu ne constitue pas les frais scolaires, mais plutôt les frais de survie que les parents ont décidé de donner aux enseignants nouvelles unités en guise d'encouragement en attendant leur prise en charge par le gouvernement. Tous nos efforts pour avoir la réaction du responsable du service des renseignements civils incriminés n'ont pas abouti. Boutembo, grâce. Amuzati, Radio Kapi.
Actualité internationale.
140 chefs d'État, de gouvernement et des ministres ont partagé hier leurs idées à l'occasion d'un sommet virtuel spécial sur le coronavirus, travaux organisés par l'Assemblée générale des Nations unies. Le président du Conseil européen a d'emblée donné le ton hier pour l'Union européenne. Le fait que le monde entier ait été pris au dépourvu par le coronavirus est une forme d'échec dont il faut tirer les conséquences et les leçons. Il faut donc plus de coordination car dans le même temps, le succès en matière de vaccins est le résultat de la mobilisation et de la solidarité internationale, a poursuivi Charles Michel. Au Mali, le Conseil national de transition tant attendu vient de voir le jour, cela après la désignation du chef d'État du Mali, la nomination d'un premier ministre et des membres de son gouvernement. Parmi les 121 membres, des noms attendus mais également des surprises. Sur la liste officielle publiée figure en tête le colonel Malik Diaw, numéro 2 de la junte malienne, qui a pris le pouvoir le 18 août dernier. L'élection du président du Conseil national de transition se déroulera en principe demain samedi 5 décembre.
L'invité.
Lancement hier à Lubumbashi de l'affichage des tarifs judiciaires organisé par l'ONG RCN Justice et Démocratie en collaboration avec le groupe thématique Justice et Droits Humains du ministère de la Justice et du Conseil supérieur de la magistrature. Cette opération vise l'amélioration de l'administration de la justice. Pour en parler, nous recevons le chef d'antenne de RCN Justice et Démocratie pour la ville de Lubumbashi, Innocent Dounia, à s'entretien avec Jean Gandou.
Innocent Dounia, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de la rencontre que RCN a organisée en ce jour?
On peut retenir que, à l'occasion de l'affichage des tarifs judiciaires, lancé à Lubumbashi avec le concours du groupe thématique Justice et Droits Humains du ministère de la Justice et du Conseil supérieur de la magistrature, il fallait bien expliquer le contexte dans lequel se place cette activité et l'intérêt vis-à-vis de l'amélioration de l'administration de la justice afin de garantir un accès facile, un accès libre, un accès équitable des justiciables aux services judiciaires.
En quoi consiste l'affichage?
L'affichage consiste en la pose des tarifs judiciaires qu'on a tirés de l'arrêté interministériel de 2017 qui fixe les taxes redevances à l'initiative du ministère de la Justice. Mais on a extrait avec le concours du ministère de la Justice juste les éléments qui concernent l'administration de la justice au niveau pénal, au niveau civil, des juridictions ordinaires. Donc il y a des panneaux qui vont être affichés au niveau de la cour d'appel du Haut-Katanga, au tribunal de grande instance du Haut-Katanga et aux trois tribunaux de paix du Haut-Katanga, donc Lubumbashi Ruashi, Lubumbashi Katuba et Lubumbashi Kamalondo. Et ces affiches vont être placées dans les greffes en supposant que c'est l'endroit où le justiciable, à la rencontre de l'administration de la justice, reçoit l'information auprès du greffier sur qu'est-ce qu'il doit payer par rapport à un acte judiciaire. Mais on le fait aussi un peu dans les couloirs, donc à des endroits qui sont accessibles à la justice.
Quelle garantie avez-vous que ces différentes tarifications seront respectées?
Autour de l'activité d'affichage, il y a d'autres rencontres avec les responsables de l'administration de la justice ici, évidemment avec le barreau du Haut-Katanga. Les avocats jouent également un rôle important dans l'administration de la justice, étant donné que c'est l'intermédiaire entre l'appareil judiciaire et le justiciable. Avec eux, on va rester en relation et puis on va essayer de sensibiliser davantage les organisations de la société civile pour qu'elles puissent sensibiliser les justiciables. Donc, l'affichage est un fait, mais au-delà de l'affichage, on va faire aussi de la vulgarisation de ces frais-là et au besoin les mettre même, donner de la signification dans les langues locales. Bon, ici ce sera le Swahili, pour que le justiciable sache exactement qu'est-ce qu'il paye. Parce que quand on parle de frais de consignation, qu'est-ce que ça signifie pour le justiciable? Il faut trouver des mots qui traduisent un peu le terme consignation. Les frais d'appel, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Les frais de non-appel, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Donc il y a un travail encore à devoir faire avec le concours de la société civile ainsi que des médias pour renforcer un peu le niveau de connaissance et de vigilance des justiciables de la ville de Lubumbashi.
Qu'adviendra-t-il si les gens ne le respectent pas?
S'ils ne le respectent pas, évidemment, il y a des mécanismes de collaboration avec les autorités judiciaires hiérarchiques, donc au niveau de la province. Ça, c'est de un, parce que l'idée pour RCN, ce n'est pas de s'ériger en un inspectorat judiciaire. Non. L'idée de RCN, c'est de pouvoir appuyer les forces et les institutions qui existent sur leur rôle et leurs attributions. Donc, s'il y a des limites, raison pour laquelle on a été avec le Conseil supérieur de la magistrature représenté ici, eh bien, on sait sur quelle porte toquer pour pouvoir obtenir ce qui semble ne pas être effectif.
Pourquoi ne pas aussi organiser de telles séances avec, d'une part, les magistrats et de l'autre, les avocats dans leur corporation que d'être représentés?
Ça, ce sera fait la semaine prochaine. Il y aura une formation de 2 jours pour chaque groupe. Donc, le premier groupe, c'est les avocats. Le deuxième groupe, c'est les magistrats. Le troisième groupe, ce sera les organisations de la société civile et les médias. Et le quatrième groupe, les agents de l'ordre judiciaire, greffiers, secrétaires, voilà, les officiers de police judiciaire. Donc, là, on pourra maintenant entrer par rapport à la spécificité de chaque corps, entrer dans les détails sur les défis, sur les difficultés, mais également sur les pratiques. Donc, la formation, c'est autour de la corruption et les infractions assimilées à la corruption selon le code pénal congolais. Mais, puisque le monnayage est aussi parmi les pratiques corruptives, donc ce sera l'occasion de parler en détail avec ces différents acteurs, mais dans des groupes tout à fait homogènes.
Innocent Dounia, je vous remercie.
Je vous remercie, vous aussi, Jean Gandou.
Voilà, c'était là notre invité, le chef d'antenne de RCN Justice et Démocratie pour la ville de Lubumbashi, Innocent Dounia, s'entretenait avec Jean Gandou. Ainsi prend fin ce journal, coordonné par Alain Roumouchinge, supervision de Julien Nyamweni. À la mise en onde, c'était Jean-Claude Nsiala et devant ce micro, Belinda Bosuma. Merci.